Pour décrire l'accès à l'extase, on peut se rendre dans les lieux des rituels soufis, mais comme l'un n'empêche pas l'autre, on peut aussi mobiliser les neurosciences. Après avoir travaillé sur les musiques proche-orientales réputées thérapeutiques, Amélie Pavard s'est intéressée aux rituels soufis et a voulu aborder les phénomènes de transe avec une approche cognitiviste.
En fait, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le fait que la musique soit considérée comme une science au Proche-Orient. Donc ça remonte au Moyen-Âge, hein, ce sont d'anciens traités, mais cet aspect-là m'intéressait beaucoup puisque actuellement on revient un petit peu hein, à la musicothérapie, etc. On revient à ces anciens traités et je trouvais que cette problématique était intéressante. D'autre part, donc au Baloutchistan, c'est des régions qui sont plutôt rurales, hein, et quand une personne est malade, on va plus facilement appeler un musicien plutôt qu'un médecin, donc qui pratiquerait la médecine occidentale, pour guérir cette personne. Je me disais que la musique pouvait, alors peut-être guérir, mais sinon engendrer une certaine émotion, avoir un quelconque effet sur le corps. Et c'était surtout cet aspect-là qui m'intéressait. Voilà, étudier une musique qui serait utile pour la société, qui aurait une certaine fonction. D'un point de vue méthodologique, la question est restée en suspens pendant très longtemps. Hein. Avec mon directeur de thèse, on s'est beaucoup questionné sur quelle méthode on allait utiliser. L'imagerie, ça a été rapidement écarté. Après, on s'est intéressé surtout sur des mesures biopsychologiques, donc le relevé de la réponse électrodermale, hein, c'est la sudation de la peau quand on a une émotion, la dilatation des pupilles, ce genre de choses qui nous paraissaient peut-être un petit peu plus faisables. Mais sur le terrain, donc une fois que j'y suis allée, je me suis aperçue que ce n'était pas possible non plus, puisqu'il faut que les personnes soient un minimum immobiles. Et dans les rituels, ben, on danse, on bouge. Et il s'agissait de ne pas non plus les contraindre à quelque chose qui ne soit plus naturel pour eux.
En même temps que vous constatez qu'il n'y a pas qu'une pratique soufie, il y a plusieurs mouvements. Et à l'intérieur même des mouvements, il y a une relation très personnelle à ce qui s'y passe, ce qui fait qu'il y a beaucoup de conceptions qui peuvent... Alors comment est-ce que vous pensez la relation entre... le rituel et la transe, vous dites que la transe n'est pas forcément la finalité.
Non. Alors, c'est un des objectifs, mais ce n'est pas la finalité dans le sens où on n'y arrive pas toujours. Voilà, on n'accède pas tout le temps à la transe. L'objectif premier, c'est d'essayer un peu de purifier son esprit, d'accéder à un état, un niveau spirituel qui serait supérieur. On y accède par des techniques de respiration, de remémoration, qui peuvent engendrer la transe, mais ce n'est pas forcément la finalité. Chez les soufis, on a vraiment une esthétique de l'authenticité qui est très importante. Donc on préfère vraiment ne pas atteindre cet état, mais essayer de s'en approcher, plutôt que de se forcer en fait à y arriver.
Comment est-ce que vous avez fait ? Alors vous êtes allé dans des villes du Proche-Orient, comment vous les avez choisies ?
Alors là aussi, il y a eu beaucoup de contraintes, en fait, parce que je pouvais pas aller où je voulais lors de l'obtention du visa. Donc, il fallait toujours dire dans quelle ville je me situais, où est-ce que je dormais, etc. Donc, je suis partie à Damas. C'était la ville où on m'avait autorisé à aller en premier lieu. Et ensuite, j'ai beaucoup voyagé dans la Syrie pour essayer de trouver des contacts. Et finalement, j'en ai trouvé à Damas, donc je suis restée à Damas.
Alors là, vous avez eu dans la ville une circulation qui n'était pas tout à fait normale pour une occidentale. Vous avez été arrêté par les renseignements généraux.
Oui, alors ça s'est passé vraiment à partir de décembre 2010, janvier 2011, puisque moi j'y suis allée à partir de février 2010.
Hein, ah oui, à un moment où il commençait à y avoir des tensions.
Voilà, donc je pense que ça venait quand même de là. Il y avait plusieurs choses. Déjà, pour les périodes de Noël, il y a très peu d'occidentaux en Syrie, il y en a beaucoup moins. En plus, je pense que, en Syrie, c'est très commun de se faire suivre, hein, de toute façon. Et je pense qu'ils avaient vu que parfois, j'allais à la mosquée, j'y allais avec des caméras. Donc je pense que ça a dû paraître suspect aussi à un certain moment. Bon, c'était pas des vraies arrestations, j'allais au poste, etc. Hein, j'étais simplement interpellée dans la rue, où on me demandait un petit peu plus de renseignements sur ce que je faisais ici, et on me demandait d'arrêter ces recherches et de rester sagement dans mon appartement. Quoi.
Ah oui, vos recherches étaient donc perçues comme suspectes.
Oui, tout à fait.
C'est pas normal de s'intéresser à la musique soufie.
Non.
Vous constatez alors qu'il y a une intrication forte entre la puissance émotionnelle que prend la musique dans ces cadres rituels et la valeur sacrée qu'elle occupe.
Oui.
Elle est sacrée parce qu'elle est émotionnelle.
Alors, elle est sacrée parce qu'elle est émotionnelle. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est parce qu'elle est sacrée qu'elle est émotionnelle. Puisque finalement, dans plusieurs répertoires, la musique est émotionnelle, même dans les répertoires plus populaires, on va dire, hein, dans la musique syrienne. Je pense que la dimension sacrée, elle est complètement dépendante de la musique en elle-même. La musique en elle-même n'est pas simplement émotionnelle, c'est la musique et le fait qu'elle soit sacrée. Je pense que ce sont ces deux aspects qui font qu'elle est émotionnelle. Et il y a la contribution du corps aussi, qui va rendre cette musique encore plus émotionnelle. Je ne sais pas si je suis très claire.
Alors justement, cette participation du corps, quand on lit Gilbert Rouget, on a tendance à penser que c'est la transe qui produit un déplacement du corps, une espèce de danse. Vous, au contraire, vous constatez que cette danse, elle prépare
Oui.
l'extase bien plus qu'elle n'en résulte.
Tout à fait. Bon, dans les écrits, c'est ce qu'on voit énormément. Après, peut-être qu'il y a des différences également, donc comme vous le disiez, entre les différentes communautés soufis, entre les mouvements, entre les écoles. C'est possible aussi que dans la communauté, moi, que j'ai étudiée, ça se passe de cette manière et ça se passe d'une manière différente dans ce que Rouget a pu observer. Dans les rituels soufis de Damas, donc ce sont les confréries chaziliyées surtout, on va débuter les mouvements dès le début du rituel. Et il y a des personnes qu'on appelle les mustaftas, ce sont des espèces de guides en fait, qui pendant le rituel vont indiquer le mouvement, son tempo à réaliser. Et même dans les séances qu'on va faire en privé, chez soi, pour répéter un petit peu ces rituels, on réalise également ces mouvements, donc dans sa salle à manger, etc. Donc, enfin, vraiment dans cette communauté, ce n'est pas du tout un effet de la transe. Hein.
Alors, ce qui est bizarre, c'est la circulation des références. C'est-à-dire que vous commencez votre thèse par parler de Gilbert Rouget, donc l'œuvre référence quand on parle musique et trance, et puis vous parlez aussi beaucoup ensuite de Damasio. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de thèses qui parlent à la fois de Gilbert Rouget et de Damasio et des sciences du cerveau. Et alors, ce qui est fou, enfin, c'est la circulation des typologies d'émotions, puisque finalement, on reprend Ekman, donc on reprend Aristote. Au passage, vous dites que Aristote a irrigué la philosophie arabe. Et puis, on a un corpus d'émotions qui est à peu près homogène, que l'on circule de la philosophie antique à la psychologie cognitive aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Bon, là, c'était plus pour retracer en fait cette étude des émotions jusqu'à aujourd'hui, pour expliquer également qu'il y avait différents courants, qu'il y avait finalement beaucoup plus de similarité entre l'esthétique arabe sur les émotions, puisqu'elle vient également de la théorie antique des émotions, que ce qu'on a aujourd'hui en psychologie cognitive. Hein, on partage tous le même héritage.
Vous citez Philippot, Chapelle et Bléry qui constatent que les exercices de respiration peuvent avoir une incidence directe, si ce n'est mécanique, sur les émotions que l'on ressent, ce qui requalifie de technique les exercices de méditation que l'on peut trouver dans les rituels soufis.
Oui, je pense que là, il y a vraiment un pont à faire, hein. Il y a vraiment des relations communes, puisque bon, pour Philippot, Chapelle et Bléry, il s'appuie sur la théorie de James et ensuite de Damasio, hein. Donc on pense que le fait de modifier la posture du corps, sa respiration, etc., va pouvoir engendrer une émotion. C'est exactement ce que font les soufis, hein. En réalisant certains mouvements, en adoptant telle ou telle posture, on va pouvoir manipuler, entre guillemets, donc intensifier ou modérer l'émotion ressentie, l'émotion qui est apportée par la musique.
Mais est-ce qu'une description aussi technique des mécanismes respiratoires à l'œuvre dans ces rituels ne risque pas précisément de désacraliser leur pratique?
Non, je ne pense pas, puisque, enfin, on peut dire que on va employer ce genre de méthode. Après, il y a encore entre dire que les soufis emploient des techniques respiratoires et le fait de savoir exactement celles qu'ils emploient, à quel moment, etc. Il y a encore beaucoup à faire, hein, puisque on va les employer en fonction des modes utilisés, des modes musicaux, en fonction de l'heure de la journée où on va faire le rituel, en fonction des participants à ce rituel. Donc, il y a encore énormément de variables qui sont ajoutées à chaque rituel. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas programmer un petit peu comme un ordinateur une transe, puis l'intensité de l'émotion, etc. Donc, je ne pense pas que ça puisse désacraliser. Je pense qu'il y a en plus d'autres variables, la croyance, etc., qui vont le musicien, ce qui va apporter lui-même au rituel. Voilà, il y a énormément de choses qui vont participer à l'émergence de l'émotion.
Oui, donc vous allez plutôt enrichir la connaissance sur le phénomène avec un ordre d'observation inédit sur...
Oui, ben, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Voilà, je pense que y a...
Alors qu'est-ce que vous constatez ? Quelles sont ces observations ?
Finalement, c'est, on ne savait pas grand-chose. Comment est-ce que la transe arrive? Comment est-ce qu'elle émerge? Est-ce qu'elle arrive tout le temps? Voilà, on était vraiment dans l'ouvrage de Jean Turing. Quelque chose se passe. Voilà, on observe quelque chose. Mais voilà, c'est un peu de l'ordre de la magie. Hein, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer. Moi, j'ai essayé d'amener une vision, effectivement, un petit peu plus pragmatique, peut-être avec les sciences cognitives. Mais ça reste encore, je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire sur ce terrain-là.
Les sciences cognitives constatent par exemple que les sons vocaux activent un plus grand nombre de zones hétéromodales que les sons instrumentaux. Et vous constatez par ailleurs que dans les rituels, les uns emploient exclusivement la voix, d'autres emploient des instruments. Est-ce que la variable va alors se vérifier sur l'effet émotionnel que ça va produire en fonction de s'il y a des instruments ou pas?
Alors, je pense que... L'intensité de l'émotion sera, je ne sais pas, puisque j'ai pas fait d'analyse en fait de comparaison entre ces rituels, donc je pourrais pas vous dire ce qu'il en est exactement. Ce que je pense, c'est que y aurait toujours des émotions très intenses qu'on pourrait observer dans ces deux types de rituels. Maintenant, ce serait peut-être pas exactement le même type d'émotion en termes de catégorie émotionnelle, par exemple.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que dans les rituels soufis, on va observer beaucoup de voilà, de la mélancolie, de la joie, l'extase, etc. Donc en ces termes de catégorie, peut-être qu'on n'observerait pas exactement la même chose. Mais dans tous les cas, on est toujours dans l'ordre d'émotions très intenses.
Alors, quels sont les paramètres musicaux qui intensifient les émotions ?
Alors, je pense que les paramètres musicaux qui vont intensifier ces émotions vont être fortement reliés à la culture, à l'esthétique de la culture, à ce qu'on en entend. Finalement, on revient au beau, qu'est-ce qui fait le beau dans la musique. Donc, il y a les techniques vocales des chanteurs, les modes utilisés, les rythmes, les surprises un petit peu qu'on peut attendre, puisque ce sont des chants qui sont semi-improvisés. Donc, je pense que c'est plutôt cet ordre-là.
Ça veut dire que il faut être de culture proche orientale pour pouvoir être à ce point touché par ces musiques-là ?
Alors, quand vous allez en Syrie, on vous dira que oui. Maintenant, on a pu observer Rouget, hein, observe que parfois des personnes étrangères à la culture peuvent également entrer en transe. Je pense que c'est quelque chose d'assez hypnotique finalement. Il y a une ambiance très très particulière. Vous êtes quand même au milieu d'une centaine de personnes, voire plus, qui sont tous en train de danser. Le matin, c'est vraiment très très hypnotique. Donc je pense qu'on peut fortement se laisser prendre. Après, on ne serait pas non plus dans la même recherche, d'accord ? Ce ne serait pas exactement la même émotion non plus. Les buts sont différents finalement.
Et vous montrez aussi que le même type d'étude met en évidence que la musique va manier les attentes de projection de la forme sonore, comment elle va s'agencer ensuite, et va agir comme un feedback aux attentes, et c'est en ça qu'elle va arriver à se montrer comme une récompense en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Finalement, on part un petit peu des théories de Leonard Meyer, hein, puisqu'on dit que l'individu aurait des attentes par rapport à la musique. La musique est construite à la manière d'un discours et le musicien peut parfois détourner certaines attentes. Et ce détournement, au moment où on entend finalement ce nouveau rythme, ce nouvel accord, cette nouvelle hauteur, etc., c'est ce qui va pouvoir déclencher au niveau cérébral soit des ondes de surprise et éventuellement cette libération de dopamine lorsque l'effet a fonctionné.
Mais sauf que ces études-là consistent à prendre des musiques alors plus ou moins lentes, plus ou moins rapides, avec des crescendo. Vous dites par exemple que le crescendo ou le décrescendo peuvent altérer la perception de la durée, mais on n'accède pas à une qualification stylistique de ces différences d'effets. On ne peut pas faire la différence entre telle symphonie de Brahms et telle autre ou...
Non, en fait, les auteurs qui étudient ces aspects, donc c'est surtout réalisé par Bigan ou Tillman, vont finalement utiliser des schémas musicaux très, très bruts, entre guillemets, hein. On utilise très rarement une symphonie ou un morceau musical qui serait beaucoup plus développé. C'est vraiment des très courts extraits qui durent 10 secondes avec un motif mélodique, un motif rythmique, et ça se limite à ça. Donc finalement, ce sont des tendances qu'on peut observer. Maintenant, voilà, je pense que c'est d'un point de vue méthodologique, il y a encore énormément à faire et on n'étudie pas des morceaux beaucoup plus complexes. Donc ce sont des suppositions, hein, qu'on peut tirer à partir de ces études.
Mais vous avez repéré dans les rituels soufis qu'il y avait des musiques qui marchaient moins bien, par exemple?
Oui, alors parfois dans les rituels, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas cette connexion finalement entre le chanteur et l'auditoire. Alors ça peut venir de plusieurs choses. Déjà, ce sont des morceaux qui sont semi-improvisés. On a parfois des chanteurs qui tiennent assez longuement sur des notes et puis bon, le souffle se perd un petit peu. Enfin, la connexion ne fonctionne pas vraiment. Après, je ne pourrais pas dire si c'est vraiment à cause de structure musicale, hein. Je pense que c'est plutôt effectivement un effet stylistique qui fait que bon, parfois ça ne fonctionne pas.
Est-ce que ce qu'on dirait en neurosciences, la variabilité interindividuelle est connotée de façon religieuse? Est-ce que quelqu'un qui rentre moins facilement en transe est considéré comme plus impie?
Non, je ne pense pas. Vraiment, hein, à la limite, ce serait plutôt l'inverse. La personne qui entrerait tout le temps en transe de manière plus ou moins indécente, hein, si elle exprime trop ses émotions,
On va la
peut-être.
suspecter de supercherie ou...
C'est possible, ou dans tous les cas, on va considérer que c'est quelque chose d'indécent. Enfin, il y a une certaine ambivalence, hein. On rentre en transe, on perd le contrôle de soi, mais pas trop quand même, puisqu'il faut pas non plus. Il n'y a pas dans les rituels soufis ces démonstrations que décrit Rouget de lacération, où on déchire ses vêtements, etc. Ce serait vraiment considéré comme déplacé finalement.
Mais pourquoi? Parce que Rouget exagère alors ou...
Non, non, je ne dis pas que Rouget exagère, mais je pense que donc son ouvrage, il est considérable, hein. Il étudie des rituels du monde entier, en tout cas dans la communauté que j'ai étudiée à Damas, et je pense dans les communautés soufis en général. Voilà, il y a cette ambivalence où on rentre en transe, mais on reste finalement digne quelque part. Enfin, on arrive mine de rien à se maîtriser. Ce serait un petit peu comme un musicien qui doit se plonger dans la musique, mais s'il se perd trop, ben, il perd le fil de son interprétation également.
Est-ce que vous avez fait des expériences sur vous-même au cours de ce travail?
Sur moi-même. Non, finalement, les expériences que j'ai menées, c'est marché beaucoup par questionnaire où je demandais à des personnes de réaliser des mouvements pour voir si, chez des personnes non soufies, je pouvais retrouver des catégories émotionnelles que j'avais observées sur le terrain. Donc voilà, ça aurait été biaisé en fait si je le faisais sur moi-même. Par contre, dans les rituels, voilà, à force d'enregistrer, d'y participer, j'ai essayé un peu de me laisser bercer par la musique, si on peut dire. Et effectivement, c'est quelque chose de très hypnotisant. En tout cas, ça a plutôt eu cet effet sur moi. Après, bon, je pense qu'il manquait beaucoup de choses, hein. Je ne suis pas native des pays arabes, donc il y avait certains aspects de la culture qui pouvaient m'échapper d'un point de vue musical. Et de la même manière, je n'avais pas cette croyance et je ne recherchais pas ce but de transe non plus. Donc je pense que ça n'aurait pas pu fonctionner.
Et ça, c'est très discriminant, effectivement, de ne
Oui.
pas être de la culture, d'avoir la croyance et...
Bah, c'est discriminant. Non, enfin, dans l'accès à la transe, si vous voulez accéder à la transe, ça peut être discriminant, en effet. Après,
Ah oui, il faut être croyant pour entrer en transe?
moi, je pense que si vous allez à un rituel et que vous ne croyez pas forcément à ce qui va se passer, il y a peu de chances que vous tombiez en transe. Enfin, la musique, elle est émotionnelle. Elle nous amène des émotions sur notre corps, sur notre esprit, sur notre manière de penser. Ensuite, bon, arriver à ces états extrêmes, hein, je pense que ce n'est pas possible. Ensuite, si vous avez le désir de tester cette expérience, même si vous n'êtes pas croyant, c'est possible que vous y arriviez. Voilà, c'est une croyance au sens large, pas forcément une croyance religieuse. Il y a un aspect motivationnel important dans ces rituels, hein, mine de rien. Dans toute cette situation, c'est un petit peu pareil. Quand vous allez à l'opéra, quand vous allez au théâtre, c'est pour recevoir quelque chose, c'est pour être ému. Enfin, vous avez une finalité. Si vous allez à ces rituels, c'est pour une certaine finalité qui sera peut-être pas la transe, mais dans tous les cas, d'approcher un état spirituel, un état émotionnel particulier que vous recherchez vous-même. Voilà.